Bonjour, je suis content d'être parmi vous, encore une fois. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà les ouvrir dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament, dans les livres un peu compliqués à trouver. Logiquement, vous avez Daniel, puis vous avez Osée, puis vous avez Joël. Si ça peut vous aider à le retrouver, au chapitre 2. Les versets 28 à 32, Joël 2, 28 à 32. Prions encore. Seigneur, ta parole est la vérité et sanctifie-nous par ta vérité. Seigneur, je te prie que tu sois encore et encore à l'œuvre, comme tu le fais dans toutes les assemblées qui professent ton nom et qui vivent et qui sont animées de l'esprit que tu as envoyé. Seigneur, viens nous transformer, viens nous encourager ce matin. Je te prie que tu me donnes la justesse des mots et que tu donnes à mes frères et sœurs et à ceux peut-être qui se questionnent ou qui ne te connaissent pas encore, que tu sois à l'œuvre pour te manifester dans les cœurs. Seigneur, bénis ta sainte parole. Tu dis dans ta parole, que tu dis dans cette même parole qu'elle est plus efficace et tranchante qu'une épée à double tranchant jusqu'à séparer jointures et moelles. L'âme et l'esprit. Et Seigneur, par cette même sainte parole, je te prie de venir sanctifier et purifier nos vies et nous donner une pleine espérance dans qui tu es. Amen. Lisons. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes. Vos jeunes hommes verront des visions et aussi sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. Jusqu'ici la parole de Dieu pour ce matin. Que Dieu soit béni pour sa parole, et je vous invite à réfléchir sur les trois questions suivantes. Ce seront les trois points. L'Esprit Saint au dernier jour, l'Esprit sur toute chair et l'Esprit qui glorifie Christ. Ce seront à peu près les trois points que l'on va essayer de voir. Et là maintenant, arrêtons-nous sur le verset 28, sur ces quelques mots, les deux premiers mots de ces versets. Après cela, vous savez, aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte, en tout cas en France. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, nous savons que la Pentecôte, c'est l'événement dans l'histoire où Dieu a répandu son esprit avec plénitude sur les disciples, sur les apôtres, qui étaient promis depuis l'Ancien Testament, des siècles avant même la venue du Christ. Et j'ai jugé vraiment bon qu'on s'arrête sur la prophétie originelle. Parce que en acte 2, si vous connaissez le récit, en acte 2, quand les gens se demandent, après avoir vu ces miracles et les disciples se mettre à parler et à proclamer l'évangile et à louer Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, des langues humaines, j'insiste là-dessus, il y en a qui étaient émerveillés, il y en a qui se posaient des questions, et puis il y en a qui disaient « Oh !» Regardez ceci, parce que imaginez qu'il y a quelqu'un qui débarque et qui se met à parler en ourdou ou en araméen dans la pièce, vous lui dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et il y en a qui se disaient, puisqu'on entendait du blablabla, dire, bon, bah, eux, je crois qu'ils se sont levés à 6h du matin et qu'ils ont bu du pastis jusqu'à 9h du matin, et voilà les fruits. On ne comprend pas ce qu'ils disent, ils disent n'importe quoi. Et Pierre, dans le récit d'acte 2, nous dit, non, c'est impossible que ces gens soient ivres parce qu'il est 9h du matin. Mais ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la prophétie que nous venons de lire. Et Mais revenons à Joël 2. Et il arrivera, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, c'est-à-dire quoi ? On ne va pas lire toutes les références, mais je suis obligé de faire un récapitulatif de ce qui se passe en Joël, de Joël 1 jusqu'à ce passage. Alors, si vous lisez, si on lit le livre de Joël, il y a plusieurs mentions des sacrifices, du système sacrificiel, du temple. Et ce qui se passe, c'est si vous connaissez l'histoire d'Israël, à un moment, l'histoire d'Israël a été coupée en deux. Israël a été coupé en deux. Il y avait un royaume illégitime au nord, qui s'appelait Israël. Et puis, il y avait le royaume légitime au sud, qui comprenait Jérusalem, qui était gouverné toujours par un descendant de David. Ça va jusque-là ? Et ce qu'il se passe, c'est qu'avec toutes ces mentions, on voit par exemple en Joël 1, verset 13, « Saignez-vous et lamentez-vous, sacrificateurs, hurlez-vous qui servez sous l'autel. » Il n'y en avait pas d'autel en Israël Nord. Le temple est à Jérusalem, les sacrifices sont offerts à Jérusalem, il faut aller à Jérusalem. Et donc c'est très probable, pleine conviction, que Joël est actuellement à Jérusalem quand nous lisons ce passage. Et ce qu'il se passe, quand on regarde tout le chapitre 1, notamment à partir du verset 4, il est question de, je lis, « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a mangé. Et ce qu'a laissé la sauterelle, l'Yélec, l'a mangé. Et ce qu'a laissé l'Yélec, la locuste l'a mangé. » Là, il est en train de faire un petit cours de biologie en citant des noms d'insectes, très probablement, des criquets. Les théologiens, les pasteurs ne sont pas unanimes s'il s'agit d'un événement historique ou pas. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que tout le chapitre 1 est au passé et il est en train d'utiliser l'imagerie, ou moi en tout cas, je crois que c'est un fait historique, que les sauterelles sont venues, il y a eu, comme on peut en voir en Afrique ou dans certaines régions au Moyen-Orient, un nuage d'insectes qui est venu dévorer toutes les récoltes. Quel est le problème ? Plus de récoltes, plus de blé. Plus de blé, plus de nourriture pour le bétail. Plus de nourriture pour le bétail, plus de sacrifices. Plus de sacrifices, notre relation avec Dieu est coupée. Et quand on constate dans l'Ancien Testament, en particulier dans les premiers livres, les premiers livres qui ont été donnés, vous savez, on a du mal à les traverser quand on essaye de lire la Bible en entier. Genèse, ça va, Exode, il y a beaucoup d'histoires, Nombre, c'est palpitant. Et puis Lévitique, pourquoi ils ne doivent pas manger de crevettes ? Voyez, ces livres-là. Et ce qu'il se passe, c'est que quand on apprend que même on apprend, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous apprend, mais on voit dans Lévitique qu'Israël, pour symboliser une relation bonne avec Dieu, non seulement devait offrir des sacrifices et des offrandes de blé, des offrandes de gâteaux, des offrandes, des sacrifices de bœufs, la Pâque, il fallait un agneau pour la faire. Sauf que s'il n'y a plus de bétail vivant, c'est problématique. Mais en plus de ça, on apprend que si Israël était dans l'incrédulité, si Israël était dans la désobéissance, si Israël louait Dieu d'une façon qui n'a pas été ordonnée par la parole, parmi les malédictions qui étaient dites sur Israël de l'Ancien Testament, j'enverrai sur vous la famine, je détruirai ce pays que je vous ai donné. C'est ce qu'on lit dans l'Exode, c'est ce qu'on lit en particulier dans le Deutéronome dans les derniers chapitres, juste avant qu'ils entrent réellement dans la terre promise. Et puis quand on avance après avoir parcouru ce chapitre 1 que je viens de résumer, on arrive sur le chapitre 2 où là, Joël passe au futur. Peut-être on peut prendre les premiers versets du chapitre 2, je ne vais pas les lire. Si on peut les mettre, si c'est possible de les mettre à l'écran, Joël 2. Est-ce qu'on peut mettre les versets d'après ? Les amis, pour Israël, la famine et la fin des sacrifices, aussi catastrophique que l'été pour eux, n'était qu'une préfiguration, un jugement avertissement sur un jugement et un avertissement encore plus grand qui allait tomber sur eux. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Quand on peut laisser ça à l'écran, mais dans les versets d'avant, il est question du jour de l'Éternel qui vient. Quand on lit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel vient, en particulier avec le peuple d'Israël, si ça peut vraiment nous aider dans notre lecture, il n'est pas forcément question du jour où Jésus va revenir, ou de la fin des temps. Imaginez qu'à chaque fois qu'on lit « Le jour de l'Éternel vient », vous pouvez mettre à côté, entre parenthèses, « Un jugement va venir ». À chaque fois qu'un jugement est annoncé, un jugement qui s'est déjà accompli dans l'histoire, il est écrit « Le jour de l'Éternel vient ». Sauf que là, quand on lit la suite lit ce passage et la suite, le jugement qui va venir, ce n'est pas la famine, c'est un peuple nombreux, puissant, fort, que rien ne peut arrêter, envoyé par la main de l'Éternel. Et si vous connaissez l'histoire, il s'agit de Babylone. Accomplissement d'une malédiction, encore de l'Ancien Testament. Ce n'est plus « je vous enverrai la famine et la sécheresse », c'est « j'enverrai sur vous un peuple étranger qui va vous réduire à néant et qui va vous faire sortir de ce pays que je vous ai donné ». Là, c'est le contexte de Joël 2. Les sacrifices qui ne marchent pas, c'est une chose. Les libations qu'on ne peut plus donner, c'est une chose. Mais par contre, le pays dans lequel on ne peut plus se trouver, dans lequel on ne peut plus être en paix, alors que c'est une promesse qui remonte dès la Genèse, avant même le don de la loi à Abraham, là, par contre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme quand il y a un début de feu où on a laissé quelque chose qu'on ne devait pas mettre dans le micro-ondes. On sent l'odeur de la fumée. On sent l'odeur du plastique brûlé, mais on n'y prend pas garde comme ce fut le cas pour Israël. Et maintenant, c'est toute la maison qui brûle. C'est ce qui se passe pour eux. Et puis après cela viennent, si on peut prendre Joël 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Peut-être le verset 11 jusqu'au verset 17, si c'est possible. Désolé. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, c'est-à-dire Babylone. Parce que le jour de l'Éternel, vous voyez, encore un jour de l'Éternel, différent des sauterelles qui sont venues au passé, ça c'est quelque chose au futur. Parce que le jour de l'Éternel est grand et fort et terrible, et qui peut le supporter ? Et puis là, pour la première fois dans Joël, il y a un appel à la repentance. Il y a une supplication. Ainsi, encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec pleurs et avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal qu'il a prononcé. Qui sait, il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction, une offrande et une libation à l'Éternel votre Dieu. Et puis encore un appel à la repentance au verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Assemblez le peuple et sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants et ceux qui têtent les mamelles, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre nuptiale, que les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent « Épargne ton peuple, ô Éternel !» et ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Ton héritage, c'est-à-dire Israël. Ne livre pas Israël à l'opprobre. Ne livre pas, quand on parle de l'héritage de Dieu dans l'Éternel, c'est une imagerie qui est prise en parlant comme si l'Éternel, à l'époque de l'esclavage en Égypte, lui-même est venu en guerre et il est venu prendre Israël comme un butin qu'il a pris à l'Égypte. Voilà l'imagerie de l'Ancien Testament. Ce butin, cet héritage pour lequel tu as fait une œuvre incroyable, ne le livre pas à l'opprobre, en sorte qu'il soit le proverbe des nations. Pourquoi dirait-on parmi leur peuple, où est leur Dieu ? Voilà. Plus grande image. Et après ça, les versets 18 à 27, pour la première fois, vient le rétablissement. La promesse d'un rétablissement. La promesse de quelque chose qui va les consoler dans ce qu'ils ont traversé. Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Et l'Éternel répondra et dira à son peuple : Voici, je vous envoie le blé et le moût et l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord, c'est-à-dire Babylone. Et je le chasserai dans un pays aride et désolé, sa face vers la mer orientale et son arrière-garde vers la mer d'Occident, la mer morte et la mer Méditerranée. Okay ? Et sa puanteur montera et son infection montera, parce qu'il s'est élevé pour faire de grandes choses. Ne crains pas, terre, égaye-toi et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Ne craignez pas, bête des champs, car les pâturages du désert verdissent, car l'arbre porte son fruit. Le figuier et la fille et la vigne donnent leur force. Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. Et les airs, c'est-à-dire un endroit en plein air, un sort de jardin où on stockait la nourriture, le blé, et les airs seront pleines de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Et je vous rendrai, là c'est très important, je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, l'yélec et la locuste et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Et vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés. Et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour vous. Et mon peuple ne sera jamais honteux ou dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera jamais honteux. Vous savez quelque chose ? Il y a le dernier jour où Jésus va revenir. Mais plus important, et c'est très important pour nous en tant qu'Église, il y a une distinction à faire entre le dernier jour et les derniers jours. Parce que ce sont vraiment deux expressions différentes. Et en fait, à partir du verset 18, nous sommes entrés dans les derniers jours. Ok. Laissez-moi vous lire quelques références. 1 Pierre chapitre 1, verset 20, par exemple. On parle de Christ. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Là, il ne parle pas de la manifestation de Christ à son retour. Il parle de la manifestation de Christ quand il est venu sur terre il y a 2000 ans. C'est de ça dont il est question. Autre passage, prenons Galates chapitre 4, versets 4 et 5. peut-être à partir du verset 3. Galates chapitre 4, versets 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Okay. Ces derniers jours, le rétablissement dans le livre de Joël, qui est promis à Israël, imaginez quelque chose, si on peut vraiment comprendre ça. Le pays est dévasté. On ne peut plus rendre de sacrifice pour être en bonne relation avec Dieu, pour symboliser cette bonne relation. Et l'éternel Dieu est en train de le dire, à la fin des temps, je vous donnerai un rétablissement qui va combler outre mesure tous ces sacrifices que vous ne pouvez pas offrir. Je vais vous donner suffisamment et tellement de ressources que vous ne manquerez jamais de sacrifices et d'offrandes à m'apporter. Mais ce sacrifice et cette offrande, ce n'est pas un sacrifice perpétuel et renouvelé par notre obéissance, par une personnalité d'un bon dirigeant qui va être remplacé. On espère que le dirigeant d'après sera mieux. Ce sacrifice-là, c'est la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ qui vient, qui a tout accompli, qui est l'offrande de libation de reconnaissance, qui est le sacrifice de pardon des péchés. Alors que l'Épître aux Hébreux nous disait dans le chapitre 9, il est impossible que le sang des bœufs, des veaux et des boucs puisse apporter réellement le pardon des péchés. Mais Jésus-Christ vient apporter le pardon des péchés. Il vient une fois, comme il dit dans le prophète Ésaïe, « Je viens, voici, il est question de moi dans le livre et tu m'as donné un corps. » Ce rétablissement, cette richesse à tel point que ça regorge de moût et d'huile et de vin en abondance, le vin qui est le symbole de la joie, c'est de savoir qu'il y en a un qui est venu, le Dieu Tout-Puissant qui est venu, en la personne de son Fils, qui s'est incarné, qui était sur le trône, à la droite du trône de Dieu le Père, qui est venu et qui s'est mis à notre place. Et je vais prendre sur moi les péchés de ceux qui placeront leur confiance en toi. Voilà le début de la fin des temps. Le début de la fin des temps est là. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, frères et sœurs? Ça veut dire que même si nous attendons le retour de Jésus-Christ, même si nous attendons son règne visible établi sur terre, même si nous attendons une terre renouvelée, on comprend mal cette doctrine et cette réalité-là si nous ne sommes pas tout d'abord assurés, convaincus qu'il est déjà venu, et il a déjà fait ce dont on a besoin. Il est déjà là. Il est déjà mort pour vos péchés, pour mes péchés. Il intercède déjà, il prie déjà pour nous depuis 2000 ans. Ça fait toute une éternité, mais en particulier en tant que Fils de Dieu incarné, devenu homme et vivant à la droite de Dieu le Père, ça fait 2000 ans qu'il prie déjà pour nous. Ça fait 2000 ans que des assemblées et des églises qui souffrent, il prie déjà pour eux. Ça fait 2000 ans que l'Éternel est déjà et se présente déjà comme le plus grand sujet de joie, le plus grand sujet d'assurance, le plus grand sujet d'être courageux et fier d'appartenir à Dieu. Et pour mettre fin à ce premier point, je vous invite à prendre acte 2, là où le passage, la prophétie de Joël est citée, à partir du verset 16 peut-être, ce que j'ai évoqué au tout début, dans l'introduction. verset 16 jusqu'au verset 21, peut-être juste le verset 16 et le verset 17. Parce que l'Ancien Testament, parfois, c'est difficile à comprendre. Mais le plus important, c'est comment les apôtres, revêtus infailliblement du Saint-Esprit pour nous expliquer la parole, le comprennent. Pierre nous dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et regardez bien ce que dit Pierre. Il ne cite pas exactement tel qu'on l'a vu dans l'Ancien Testament, mais il dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours. Ça fait 2000 Pentecôtes qu'on est dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Merci. Donc, le après cela... Après le jugement, après l'entrée dans les derniers jours, dans ces mêmes derniers jours, je vais envoyer un autre signe que nous sommes dans les derniers jours. L'Esprit répandu avec plénitude. C'était important, vraiment, vraiment, vraiment important qu'on comprenne cela. Et on peut avancer. On peut avancer dans la suite du passage. Je vais lire les versets 28, puis 30 et 31. Pardon, 28 et 29. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. On attaque le deuxième point, l'esprit répandu sur toute chair. Peut-être que parmi nous, il y en a qui se posent la question, attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire que, ah super, dans le Nouveau Testament, on est enfin sauvé par la grâce parce que Dieu répand son esprit et les gens naissent de nouveau. Et dans l'Ancien Testament, vu que l'Esprit n'était pas répandu, ils étaient sauvés par les œuvres en faisant... Ce n'est pas ce dont il est question. Ce n'est pas du tout ce dont il est question. C'est très, très important, le salut par la grâce, salut par la foi en Dieu, en la personne du Messie. Dans l'Ancien Testament, le Messie qui devait venir, et pour nous, dans le Nouveau Testament, le Messie qui y est venu. Ok, je vais expliquer... Pourquoi il parle de l'esprit sur toute chair et pourquoi c'est important pour nous. Si vous constatez, si on est vigilant dans l'Ancien Testament, l'esprit, en dehors de certaines occasions particulières, comme à la création, le deuxième verset de la Bible parle du Saint-Esprit qui vient, l'esprit qui plane au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est pleinement manifesté que sur trois types de personnes. Les rois, les prêtres et les prophètes. 99% du temps, quand on lit l'Ancien Testament et qu'on parle du Saint-Esprit, les rois, les prêtres et les prophètes. Est-ce que ça veut dire que seuls les rois, les prêtres et les prophètes étaient nés de nouveau ? Non. 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 Bien convaincu. Non. Par contre, l'Esprit pour assister particulièrement des croyants ou même des non-croyants pour une œuvre particulière, c'était les rois, les prêtres et les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'en par exemple dans le psaume 51, ce psaume de repentance, lorsque David prie, si je cite, peut-être qu'il va vous revenir à l'esprit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il n'est pas en train de dire, j'étais né de nouveau, ne me déchristianise pas, ne me rends pas plus chrétien, ne me fais pas perdre mon salut. Ce n'est pas du tout cela dont il est question. Ce dont il est question, dans le psaume 51, David dit ça, si vous avez le contexte, c'est après avoir commis un péché, un double péché grave, un adultère avec la femme d'un de ses soldats, et la femme est tombée enceinte, et pour couvrir ça, il a fait tuer ce soldat pour qu'il puisse prendre cette femme pour son épouse. Et il a reçu un jugement là-dessus. Par ailleurs, il est en train de dire à Dieu, « Seigneur, le roi qui avait avant moi a été infidèle et tu as retiré ton esprit pour qu'il perde toute la sagesse et la lucidité pour être un bon roi pour Israël. Qu'il ne m'arrive pas la même chose parce que j'ai commis un péché grave. » Vous voyez ? Et c'est de cet esprit-là, c'est de cette œuvre de l'esprit-là particulièrement qu'il est question quand on lit Joël 2, versets 28-29. Avant, quand on dit sur toute chair, particulièrement, c'était avant, je répandais, moi l'Éternel, je répandais mon esprit sur les rois, les prêtres et les prophètes, et encore pas tout le temps. Quand on lit un roi, deux rois, 1 Samuel, 2 Samuel, on se rend compte assez vite que tous les rois n'étaient pas remplis de l'esprit, surtout en Israël Nord. Par contre, maintenant, il est répandu sur toute chair, c'est-à-dire vos fils et vos filles, vos vieillards, vos jeunes hommes, vos serviteurs et vos servantes. Ce n'était pas le cas avant. L'esprit pour assister au service de Dieu est maintenant répandu sur tout le monde. Dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu un seul homme qui a cumulé les trois offices. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui était à la fois prêtre, roi et prophète. Peut-être penser à Melchisédek dans la Genèse, il était juste roi et juste prêtre. Peut-être que vous pensez à David. Quand même, la Bible parle de David comme un prophète et elle parle de David comme un roi, ce qui est le plus clair, mais pas comme un prêtre. Et puis vient Jésus, le roi ressuscité qui règne, le prophète qui est comme Moïse, comme dit l'apôtre Pierre en citant Deutéronome 18, le roi et le prophète qui était promis, écoutez ce qu'il vous dira et vous vivrez. Et le prêtre qui vient intercéder devant Dieu, rétablir la relation entre un peuple infidèle et un Dieu infiniment saint, infiniment juste, infiniment rempli de haine contre le péché. Il vient le rétablir, mais en plus, il vient, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, non pas avec le sang d'un agneau ou d'un bouc, mais avec son propre sang pour nous racheter. Et voilà ce qui se passe ici. Un esprit qui est répandu. Où les amis, au minimum, parce que ce n'est pas clair dans le récit des Actes si l'esprit était descendu sur. Ce n'est pas clair si l'esprit était descendu sur les 120 disciples ou sur les 11 plus 1 apôtres. 11 plus 1 parce que Judas n'est plus là et qu'il y a Étienne à la place. Ah, c'était pas Albert Einstein et Stephen Hawking. Ce n'étaient pas des génies. Ce n'étaient pas des personnes remplies d'honneur et aux yeux des gens. C'était 11 plus 1 personnes qui n'ont rien en commun les uns avec les autres. Il y en a qui en avaient, comme Pierre, Jacques, Jean, qui n'avaient aucune éducation en tant que pêcheurs, qui vivaient en Galilée. Des gens qui n'ont rien à voir avec la prêtrise. Et Dieu répand son esprit sur eux. Et il répand son esprit sur eux, les 12 apôtres. 12 apôtres qui étaient choisis, 12 comme Jésus l'a voulu, pour représenter comme les 12 tribus d'Israël qui représentent l'ensemble du peuple de Dieu. Et en tant qu'Église, nous avons tous le Saint-Esprit. L'Église véritable, invisible, est constituée de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Des fils, des filles, des vieillards, des jeunes hommes, des serviteurs et des servantes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. C'est très, 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 très important. Si vous avez Christ, si nous avons Christ, nous avons le Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Dieu nous a restaurés. Peut-être que, comme on disait au tout début, et évidemment c'est le cas pour moi aussi, on aimerait être 90 dans la pièce. Dieu nous a restaurés. Il nous a restaurés individuellement en nous tirant des ténèbres à son admirable lumière. En nous tirant de ce statut, de cette position d'ennemi de Dieu, en fils bien-aimé, et pour tout le monde. Et il n'y en a pas un qui a plus mérité que l'autre. Nous, comme disait le prophète Ésaïe, nous étions tous, sans exception, comme des brebis errantes. Nous suivions nos propres voies. Et que ce soit par un rêve, que ce soit par la lecture de la parole, que ce soit par l'écoute d'une prédication, que ce soit par un chrétien qui un jour vous a parlé de Jésus dans le métro ou à la fin d'un culte où vous n'avez rien retenu de la prédication. Il l'a utilisé pour nous tirer. Mes amis, être chrétien, c'est important de l'appuyer. Être chrétien, être né de nouveau, ce sont des synonymes. Être chrétien, être né de nouveau, ce n'est pas j'essaye maintenant de vivre d'une différente manière. Ce n'est pas ah, je crois que je suis sauvé parce que je crois que je fais de mon mieux. La nouvelle naissance, c'est très important. Jésus dit à Nicodème, si une personne ne renaît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se permettre d'être en flou et d'avoir un manque de certitude. Si on n'est pas né de nouveau, nous ne sommes pas sauvés. Nous n'appartenons pas au Seigneur. Nous ne sommes pas scellés de son esprit. La nouvelle naissance, c'est cet instant où, avant, même si j'avais une certaine connaissance intellectuelle de Dieu, même si j'appréciais être dans la communion avec l'Église, ou peut-être que j'appréciais pas du tout et que j'étais sataniste, ou que je pratiquais des arts occultes, c'est ce moment où la pièce de mon cœur, dans le noir, Dieu, par sa main puissante, à travers son Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit intentionnel, vient. Il ouvre le volet qui était fermé. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les volets le matin? Petit à petit, il y a, comme dans les stores ici, il y a des petits trous. Ces petits trous, quand on ouvre ces petits trous, on voit à travers la lumière, les faisceaux de lumière qui passent, de la poussière qui s'envole. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. Et on dit, tiens, au fait, j'ai bien un cœur, j'ai bien une âme. Il y a bien quelque chose en dehors de moi. Tiens, il y a un peu de saleté dans l'air. Et j'ouvre complètement le volet et ce que je vois, c'est que non seulement il y a une lumière incroyable dehors, mais ça met la lumière sur mon cœur et ma vie et je vois où j'étais vis-à-vis de Dieu. Et il faut tout nettoyer. Il faut tout changer. Il y a un mur, les fondations sont pourries et rongées par les termites et j'ai besoin que Dieu vienne et rebâtisse ou bâtisse parce qu'il n'y a presque rien du tout dans cette pièce. Voilà ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien. Voilà ce qui se passe quand on devient chrétien. Ça, c'est arrivé à tout enfant de Dieu. Et maintenant, quand nous sommes chrétiens dans la nouvelle alliance, quand nous sommes chrétiens, non seulement il fait cette œuvre-là où il sauve quelqu'un, mais la Bible ne parle jamais en disant « vous êtes sauvé », point barre. Il dit « vous êtes sauvé pour quoi faire ?» Des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10. Quand l'Esprit Saint vient dans nos vies, non seulement il y a ce travail où la méchanceté et l'idolâtrie et la haine de la haine et l'indifférence dans nos cœurs vis-à-vis de Dieu jusqu'à présent est mise en lumière, nous nous tournons vers Dieu, mais ça ne s'arrête pas là, c'est que l'Esprit Saint, et c'est ce qui se passe ici au verset 28, ce dont il est question, et l'Esprit Saint nous donne de marcher pour servir le Seigneur, à travers des dons, à travers des choses qui vont être nécessaires pour l'avancée de son royaume. Les amis, nous avons de quoi servir Dieu si nous avons l'Esprit Saint. Maintenant, nous abordons le dernier point, l'Esprit qui glorifie Christ. Je lis les versets 28-29, puis les versets 32. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. L'Esprit, 28-29, puis verset 32. Et puis 32. Merci. L'Esprit, les amis, ne se met jamais en avant. La Bible parle beaucoup de Jésus qui s'est humilié, mais elle ne nous parle pas de l'Esprit qui s'est humilié. Mais l'humilité de l'Esprit est différente. Christ, c'est celui qui manifeste l'humilité en, non pas en perdant ses attributs divins, mais en prenant la même nature que nous. Et l'Esprit, c'est celui qui vient et ce qu'il fait, c'est juste de nous dire « Regarde Christ. Regarde Christ. » Le chrétien, pas tous les jours, mais c'est celui qui regarde Christ. C'est celui qui veut voir Christ. Le chrétien, c'est celui qui dit, comme on le voit, on l'a vu dans Joël 2, « Je ne veux rien d'autre. Donnez-moi Christ. Je ne veux rien d'autre. Montre-moi Christ. Je ne veux pas d'une solution pragmatique. Je ne veux pas d'une sagesse humaine qui veut me faire croire que je peux me passer de Dieu. Donne-moi Christ. Montre-moi Christ. » Le chrétien, c'est celui qui a été habité de lunettes spirituelles particulières pour qu'il puisse voir la beauté du Christ. Comme la lumière blanche, là, on ne la voit pas. Il y a de la lumière blanche partout. Mais par contre, le Saint-Esprit, il est comme ce diamant qu'on vient dans une pièce dans le noir mettre au milieu. La lumière vient dessus et on voit toutes les palettes de la couleur, comme un arc-en-ciel. Et ainsi en est-il du Saint-Esprit. Ainsi en est-il du Saint-Esprit. On voit la beauté du Christ. Et Pierre, en acte 2, lorsqu'il finit de lire, de citer cette prophétie, il nous montre que le Seigneur qui doit être invoqué, c'est Christ. Lui-même. On a chanté dans ce chant tout à l'heure, et j'arrive vers la fin de ce message. On a parlé du réveil. On a parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un réveil ? Un réveil, c'est lorsque l'esprit de plénitude est envoyé sur plusieurs personnes. Le réveil commence toujours dans l'Église. il ne commence pas par, même si on le voit dans Pentecôte, parce qu'on a d'autres Pentecôtes, des manifestations spirituelles, des miracles et du parler en langue. Ça arrive dans les Actes. Je crois que c'était particulier à cause de l'époque apostolique et qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. La Bible est très claire là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui est mis en avant ? Le peuple de Dieu est indigné sur son péché. Le peuple de Dieu se repent de son péché. Et le peuple de Dieu cherche la face de Dieu. C'est ce qui se passe dans un réveil. Un réveil, ce n'est pas l'attente d'un prédicateur particulier, d'un pasteur particulier qui va aller prêcher dans la rue et ouais, tout le monde va l'écouter parce qu'il a des stratagèmes incroyables. Il a tellement de charisme, tellement d'éloquence. Non, un réveil, c'est lorsque Dieu souverainement, même à travers le prédicateur le plus brouillon et le plus incompréhensible qui soit, Dieu déverse son esprit et plein de gens, les chrétiens, veulent à nouveau et sont rassasiés de la personne du Christ. Ils ne veulent plus chercher leurs propres moyens, mais revenir aux saintes Écritures. On oublie la réforme, ce n'est pas avant tout au XVIe siècle, avec Martin Luther, avec Jean Calvin, avec Zwingli, avec Pierre Viret en Suisse. La réforme n'était pas une œuvre intellectuelle incroyable où les gens ils ont appris à lire et le Nouveau Testament dans les langues originales, où des gens se mettent à lire la Bible. La réforme, ce qui s'est passé à la réforme, et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'ampleur, c'est un réveil. La réforme est un réveil. Les réveils méthodistes avec les frères Wesley, avec Whitfield, ce n'était pas le zèle et l'éloquence des frères Wesley et de Whitfield. C'est Christ qui était présenté au peuple et tous les affamés dans l'Église et en dehors de l'Église venaient pour être nourris. Charles Spurgeon, que vous connaissez très probablement, le grand prédicateur baptiste du 19e, il s'est converti et pourtant il dit dans ses propres autobiographies: honnêtement, les mecs, la prédication que j'ai entendue par laquelle j'ai été converti, elle était médiocre. Et cette prédication médiocre, c'est ce que Dieu a utilisé pour convertir celui qui allait devenir celui qu'on appelle le prince des prédicateurs. Charles Spurgeon, souvent on a l'image de ce prédicateur. On se dit que Spurgeon, il avait tellement des facultés intellectuelles incroyables, une mémoire photographique pour se souvenir de toute la Bible, comme Bunyan, l'auteur du Voyage du Pèlerin. On disait de Spurgeon, de Bunyan et de certaines personnes comme eux, Robert Murray McShane, peut-être que vous avez déjà lu le plan McShane pour lire la Bible en un an. On disait de ces hommes, si on leur faisait des incisions pour prendre du sang, c'est pas du sang, mais c'est des lignes de versets bibliques qui vont sortir d'eux. Et le chrétien, c'est celui qui veut être nourri de Dieu. De Dieu, donne-moi Dieu, montre-moi Dieu, proclame-moi Dieu. Viens pas dorer mon ego. Viens pas me redonner de l'estime de moi en me disant combien je suis bon, ou combien je suis gentil, combien je suis sympa. Mais viens me donner et me montrer contre nos faiblesses, contre mes imperfections, contre mon manque de zèle, contre le manque d'unité. Viens me montrer Dieu, bon, Dieu qui est trois en un, Père, Fils, Saint-Esprit. Charles Spurgeon, pour le citer encore, on s'imagine qu'il y avait 400 convertis à chaque prédication qu'il donnait. Pourtant, en fait, quand on publie, il y a énormément de volumes de ces prédications qui sont données, qui sont imprimées, rééditées, en anglais en particulier. Il y en a qui sortent en français. Mais en fait, il y a des volumes particuliers qui s'appellent, si je traduis en français, les sermons des années du réveil. Durant le ministère de Spurgeon, il y a eu des années de réveil. Mais ça veut dire que tout le reste, il y a eu des années où, ben, comme dans beaucoup d'églises normales, ben, il y avait quoi ? Peut-être un ou deux convertis par an, alors qu'ils prêchaient peut-être trois fois par semaine, 52 semaines. Il y a des moments où, comme l'apôtre Pierre, il prêche une fois en acte 2, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Et puis, il y a les églises normales, la plupart du temps, on prêche 3000 prédications, il y a une personne qui se convertit. Et j'arrête là. Ça n'empêche pas, parce que je l'ai appuyé, Christ est venu, nous avons l'Esprit. Ça n'empêche pas qu'on puisse demander de l'aide à Dieu. Pas pour qu'il envoie un meilleur président en France ou un président un peu plus sage aux États-Unis ou un pasteur plus expérimenté et plus charismatique. Ce dont nous avons besoin, et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai longuement parlé du réveil pour finir. C'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons transformés, que notre zèle soit renouvelé et que le croyant normal se tourne vers Christ. On est tous des croyants normaux. Élie était un croyant normal. Tout ce qu'il a vu, tout ce que Dieu a fait pour lui dans l'Ancien Testament. Et pourtant, il était dépressif et suicidaire avant de... Soyons plutôt des Élie, les amis, en comptant sur Dieu, en croire que, comme il a pourvu à Élisée, en pourvoyant à Élisée, il a dit à Élie, mais t'inquiète, je me suis gardé 3000 hommes dans tout Israël, infidèles et apostates, qui ne n'ont jamais fléchi le genou devant la divinité de Sidon. Dieu nous garde, son peuple. Il garde des gens fidèles. Et comptons sur lui. Vraiment, prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Prions pour le réveil. Mais surtout, pour ne pas idolâtrer un événement particulier un jour, prions pour que nos vies soient transformées. À chaque fois que nous prions, ça vous est arrivé. Il y a des moments où on prie, on n'a pas envie de prier, on lit, on n'a pas envie de lire, on essaye de lire. Je vais lire un chapitre aujourd'hui, mais en fait, je lis 3 fois, 10 fois les versets 1 à 3 parce que je ne comprends pas, je ne suis pas concentré. Et puis, dans ma tête, il y a il faut que j'aille chercher la viande pour le repas de ce soir. Et puis, il y a des moments. Où j'ai envie de me mettre à genoux et de chanter à haute voix jusqu'à avoir des problèmes avec mes voisins parce que l'Esprit de Dieu m'a saisi et j'ai envie de me rappeler combien Dieu est bon et combien son sacrifice manifeste le grand amour qu'il a envers moi. Voyez ça comme un réveil personnel. Et la plénitude, c'est un réveil collectif. Et c'est quelque chose que Dieu fait encore. Et en tant que chrétiens, ne nous satisfaisons pas de juste être nés de nouveau. Charles Spurgeon, et ça va sonner peut-être pentecôtiste à vos yeux. Charles Spurgeon, il disait à propos de l'expérience de plénitude qui peut avoir lieu plusieurs fois tout au long de la vie d'un chrétien à certains moments. Et c'est ce qu'on voit même dans la vie des apôtres. Ils n'étaient pas toujours remplis du Saint-Esprit. Il y a des moments où on dit « ils furent remplis du Saint-Esprit et ils ont prêché et ils ont partagé l'Évangile ». Charles Spurgeon, il disait à ce sujet, « les amis, nous avons reçu cette bénédiction lorsque nous nous sommes convertis. Mais Dieu nous a promis l'Esprit et je ne vais pas refuser Dieu pour qu'il envoie encore une dose supplémentaire de sa grâce qui est déjà incroyable. Alors comptons sur celle-ci. Prions. Seigneur, nous sommes déjà dans les derniers jours. Seigneur, on pense souvent à ces versets dans ta parole où tu dis Tu nous dis d'être vigilants parce que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, des mauvais bergers, des fausses doctrines. En fait, déjà, depuis l'époque des apôtres et de Timothée, il y avait déjà des fausses doctrines. Depuis que Christ est venu, il y a des ennemis de l'évangile qui surgissent. Et on voit que, en substance, les hérésies sont les mêmes, la rébellion contre ton Fils. Mais Seigneur, on sait qu'on est dans les derniers jours parce que l'Esprit nous a été donné. Seigneur, je te prie que tu nous donnes encore plus d'assurance que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et qu'il est le bon roi, le bon berger qui prend soin du petit troupeau duquel tu dis « N'aie pas peur, petit troupeau ». Seigneur, je te prie par la même occasion pour que, comme l'ont prié les disciples après le procès au Sanhédrin, Seigneur, tu vois, pour eux, c'était Ponce Pilate et les autorités juives. Et pour nous, c'est surtout en France, Satan qui veut contrecarrer les plans, mais aussi notre propre chair, sans que Satan ne vienne nous faire quoi que ce soit. Notre propre chair qui veut se rebeller, qui déteste les choses célestes. Seigneur, viens, viens et aie compassion de nous. Donne-nous du courage pour ne pas laisser, pour combattre, pour ne pas laisser notre chair apporter du discrédit sur ton nom, mais viens nous aider à combattre, nous donner la volonté et ma contre-cœur pour que l'évangile de Christ soit manifesté par notre zèle pour partager l'évangile, pour parler de Christ, mais surtout aussi pour prendre soin des frères et sœurs. Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, tu parles de ton horreur envers ce peuple qui te loue par la bouche et les sacrifices, mais qui ne délie pas les liens de la méchanceté. Seigneur, je te prie que tu nous aides et tu nous donnes de délier les liens de la méchanceté, de rechercher ta face et de nous attendre à ce que tu viennes nous renouveler et augmenter notre amour pour Christ. Seigneur, on te demande tout ça au nom de Christ qui a tout racheté pour nous, qui a payé pour notre pardon, pour notre entrée au ciel et pour le don du Saint-Esprit. Seigneur, sois à l'œuvre, je t'en prie. Amen.